Donc Bernard est responsable de l'équipe valorisation des données de la recherche à l'INIST et il va donc nous présenter la toute nouvelle offre Oppidor en matière de valorisation et de gestion des données de la recherche qui a été évoquée à plusieurs reprises ce matin et en début d'après-midi. Donc Bernard, je te laisse la parole.
Oui, tout d'abord quelques éléments de définition et de contexte, mais ça ce sont des choses qui ont été déjà vues, appréhendées, des choses que vous savez déjà, mais ça me semblait intéressant. Alors, ça marche pas. Si, ça marche, voilà. Une donnée de recherche, c'est quoi ? Personne aujourd'hui n'est d'accord pour donner une seule définition d'une donnée de recherche. L'OCDE propose 7 définitions. L'association des archivistes français, la section Aurore, propose une autre définition. Le copiste CIRAD a proposé cette autre définition que je vous laisse découvrir. Vous les aurez dans les transparents, mais les uns et les autres incluent ou pas des éléments dans une donnée de recherche. Quelques exemples. Un carnet de laboratoire, est-ce que c'est une donnée de recherche ? Un animal de laboratoire, est-ce que c'est une donnée de recherche ? Je vous laisse réfléchir à ça et bon courage. Hein. Mais vous qui êtes sociologue, vous connaissez le problème. Mettez 10 spécialistes de l'IST ensemble, vous n'aurez pas une définition d'une donnée de recherche. Ceci dit, en tant que sociologue, si vous mettez 10 sociologues ensemble et vous leur demandez de définir ce que c'est qu'une classe moyenne, vous aurez la même réponse. Bref, voilà, blague à part, je vous laisse cogiter. Ce qui nous empêche quand même, qu'il va bien falloir quand même les gérer, ces données de recherche, même si les définitions sont différentes. Alors, une donnée de recherche, au moment où elle est agrégée, ça devient un jeu de données. Un jeu de données, comme le dit Rémi Gaillard dans cette définition qui me semble tout à fait pertinente, c'est l'agrégation sous une forme lisible de données brutes ou dérivées, ça n'a pas l'air de fonctionner, s'il faut être juste en face, qui présentent une certaine unité et qui sont rassemblés pour en former un ensemble cohérent. C'est votre fichier Excel. C'est votre fichier Excel, on en a parlé ce matin. Ce fichier Excel, effectivement, il doit être à un moment donné parfaitement documenté, ce qu'on appelle un dictionnaire de données qui va dire à quoi correspond la colonne, quelles sont les valeurs, etc. Le plus précis sera le mieux, bien entendu. Les notions d'open data, vous l'avez là, une définition de RDA. Alors, on a parlé ce matin de deux types de données. Vous allez avoir, nous on a considéré 5 types de données. Les données d'observation, c'est-à-dire celles qui sont effectivement capturées en temps réel et qui sont impossible à reproduire. Une donnée d'enquête, pour vous, sociologue, oui, c'est une donnée d'observation, d'enquête sociale, comme vous avez là, une donnée de fouille archéologique. La fouille archéologique détruit le support sur lequel il est, c'est le propre de l'archéologie. Vous avez des données expérimentales. Ces données, elles sont reproductibles, oui, pourquoi pas, à condition d'avoir bien expliqué, bien exposé et documenté le protocole, mais ça coûte cher. Les données de simulation numérique, là on est dans un nouveau paradigme, les données de simulation numérique sont souvent reproductibles, pareil, si le modèle est correctement documenté. Et puis vous allez avoir les données dérivées ou les données compilées. C'est le traitement, la combinaison de données brutes. Elles sont souvent reproductibles, mais elles sont coûteuses. Et puis tout en bas de la diapositive, vous avez des données de référence. Donc ça, c'est très très spécifique. Vous avez des séquences de gènes ou des structures chimiques. Et vous avez des organismes qui ont ces données de référence. Autre définition, c'est quoi l'open data ? C'est quoi l'open access ? On a essayé dans cette diapo de faire une définition la plus simple possible. Et Dieu sait que ça ne l'est pas. Pour autant, open data, données ouvertes, open access, c'est le libre accès. Sur la diapositive suivante, vous avez la progression temporelle de ces deux, comment on peut les appeler, ces deux phénomènes. L'open data qui commence avec la loi CADA, vous avez tout à l'écran, je ne vais pas reprendre la totalité de ces données. À un moment donné, on se rend compte que tout ça converge vers l'open research data. Alors, on en a parlé, c'est des choses qui ont été évoquées ce matin et cet après-midi. Pourquoi ouvrir les données? Vous avez ici quelques réponses. Pour l'intégrité scientifique, oui. Un chercheur peut tout à fait avoir besoin de contrôler le travail d'un autre chercheur, non pas pour contrôler, mais pour juste vérifier que l'intégrité scientifique est, est assurée. Parce que nous sommes dans une nouvelle science, une science collaborative, une science où on partage, une science où on travaille ensemble. Pour le partage des résultats, bien entendu, parce que une donnée, ça coûte cher, donc on attend un retour sur investissement. Parce que ça répond aussi à des défis sociétaux, ceux dans lesquels nous sommes engagés, hein, la santé, l'énergie, l'environnement et d'autres. Pas secondairement, mais de façon moins importante, parce que ça permet une ouverture des résultats de recherche aux citoyens. Je ne suis pas certain que la totalité des citoyens soient capables de comprendre une structure d'ADN. Et ce n'est pas péjoratif de ma part, c'est parce que c'est plutôt pour des spécialistes. Et puis parce que ça peut correspondre aussi à des exigences de financement de la recherche. On en a parlé peut-être ce matin, je ne sais plus, mais en tout cas, H2020 a des exigences en termes d'ouverture de données. Nous vous finançons vos recherches, mais la contrepartie, c'est vous devez ouvrir vos données. On en parlera pas beaucoup. Une bonne gestion, pourquoi? Eh bien, parce que ça permet d'assurer la conservation, la découverte et la réutilisation des données par la communauté scientifique. Voilà ce que dit, on a parlé de FAIR Data Management, et voilà ce que nous dit la Commission européenne. Ça permet, et on a tous les éléments de FAIR. Alors, FAIR, on a entendu... je ne sais plus ce qu'on avait entendu à propos du F de FAIR. Moi, j'aime bien, bon, c'est un peu ridicule peut-être, mais j'aime bien le facile à trouver pour le F. Vous savez qu'on a l'habitude de représenter les données en fonction d'un cycle de vie. On parle d'un cycle de vie des données. Ça, on en a parlé ce matin et vous en avez entendu certainement parler. La première étape, c'est l'étape de conception, de planification et de financement. On verra par la suite que le DMP vient se brancher à ce niveau-là. Ensuite, vous avez les différentes étapes, collecter, analyser, documenter, stocker, conserver, sauvegarder et conserver, publier et partager, trouver et réutiliser. Remarquez qu'on retrouve tous les éléments de FAIR dans ce cycle de vie des données. C'est une représentation. Il y en a d'autres, vous en trouverez d'autres, bien entendu. Celui-là, c'est la représentation de l'université de Sydney. Je viens de parler de DMP. Certains d'entre vous connaissent déjà le DMP, le principe même du DMP. Vous entendrez parler indifféremment de DMP ou de PGD pour plan de gestion de données. Alors, en une phrase, et c'est une bonne définition, elle est à mon avis, à conserver. C'est un document qui décrit collecte, traitement, documentation, stockage, conservation, partage des données de recherche. Là-dedans, il y a beaucoup de choses. C'est la traduction écrite de la politique, politique de données d'un projet de recherche. Et c'est le point de départ et un élément clé j'insiste, c'est très important, d'une bonne gestion des données. Parce que au moment où vous allez décrire vos données dans un DMP, vous allez déjà être obligé d'imaginer comment vous allez traiter, conserver, réutiliser, etc. Et ce n'est pas à la fin, parce que là, ce n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour le faire, mais ça vous prendra beaucoup plus de temps, ça sera beaucoup plus difficile que de le faire au début. D'autant plus que, par exemple, dans les projets H2020 auxquels vous êtes peut-être confrontés, dans les projets H2020, la gestion des données elles-mêmes peut être financée au sein du projet. Alors, vous allez me dire, oui, c'est encore un papier en plus. Non. Enfin, si. Enfin, comme vous voulez. C'est un outil de travail. C'est avant tout un outil de travail, c'est un outil de gestion, c'est un outil de bonne gestion. Ça permet, parce qu'on le fait en amont, ça permet de faciliter tout le travail qui sera fait ultérieurement. Vous chercheurs ou vos chercheurs, je ne sais pas s'il y a des chercheurs parmi vous, et je m'adresse à tous de toute façon, vont dire « Oh, c'est une contrainte administrative supplémentaire ». Oui, mais non. Mais non, parce que c'est ce que je viens de dire. Ça n'est pas une contrainte supplémentaire, parce que si vous avez prévu en amont comment vous allez gérer, décrire, gérer jusqu'au bout, jusqu'au stockage, jusqu'à l'archivage, toute la procédure de gestion des données, c'est tout du travail qui ne sera pas à faire à un moment, à la fin du projet, au moment où il faut rendre le résultat, rendre des publications, etc. J'insiste dessus parce qu'effectivement, comme je le marque, ça favorise les bonnes pratiques de gestion et le partage des données de recherche. Un DMP vous répond aussi au principe FAIR, voilà, qui rend les données facile à trouver, accessible, interopérable, réutilisable. Bon, maintenant, il ne faut pas se leurrer. Réutilisable, vos données, elles seront peut-être réutilisables, mais peut-être qu'elles ne le seront pas, mais en tout cas, il faut qu'elles puissent l'être. Il faut qu'elles puissent l'être. Finalement, on se rend compte que peu de données sont réutilisables. Alors, il y a des chiffres dont on entend parler. Moi, je préfère pas donner de chiffres. Mais j'ai envie de dire, faites en sorte, au moment où vous rédigez, où vous allez décrire vos données, faites en sorte qu'elles puissent être réutilisables. C'est ça qui est important. Dernier point, le DMP est un livrable. Dans le cadre de projet de recherche H2020, le DMP est un livrable. Jusqu'avant le 1er janvier 2017, il y avait des pilotes qui... des pilotes dans le cadre de H2020 qui définissaient un certain nombre de domaines scientifiques pour lesquels le DMP était obligatoire. Les autres, à partir du 1er janvier 2017, donc on arrive en fin d'année, bientôt un an, le pilote a été étendu à tous les domaines scientifiques. Donc aujourd'hui, dans le cadre de H2020, le pilote, c'est tous les domaines scientifiques, vous êtes contraint de déposer un DMP. Alors attention, contraint de déposer un DMP comme livrable avec différentes échéances, mais cette contrainte ne signifie pas que vous êtes obligé de mettre à disposition gratuitement vos données. Bien entendu, la différence est importante parce que vous pouvez avoir des données qui sont des données, on en a parlé, confidentielles, des données d'analyse médicale par exemple. Vous pouvez avoir des données qui touchent à la sécurité publique, par exemple. Et ça, c'est des données. Le jeu de données existe, mais il n'est pas accessible. Joachim avait parlé ce matin de ces données qui n'étaient pas accessibles pour un certain nombre de raisons, et en particulier pour des raisons d'embargo, mais aussi pour des raisons de non-accessibilité, parce que ça touche, je prends un exemple, à la sécurité publique, par exemple. Mais ce n'est pas le seul exemple. Alors... L'INIST a construit une offre de service qui s'appelle OPIDOR pour optimisation du partage et dans l'interopérabilité des données de recherche. Je vous incite à garder cette URL. C'est une offre au service de l'ESR. Université, CNRS, vous pouvez tous utiliser ce portail Oppidor. Je vais rentrer un petit peu dans le détail. C'est un portail d'accès à des outils et services qui facilitent la gestion et la valorisation des données de recherche. Depuis 10 minutes, je vous bassine avec ça. C'est un service qui est mis en place et hébergé par l'INIS CNRS. Ça a un sens. Ça veut dire, par exemple, pour les DMP, que les DMP seront hébergés sur les serveurs de l'INIS. On a parlé ce matin de données qui allaient se balader sur les serveurs, on ne savait pas trop où. Là, les DMP sont gardés ici, chez nous, sur nos serveurs. C'est mis, gratuitement, mais oui, mais non. Bon, je vais rentrer, je vais vous expliquer. C'est mis à disposition de la communauté d'enseignement supérieur et de la recherche. Le portail a ouvert début octobre 2017, donc c'est quand même tout récent. À quoi ça ressemble ? Voilà ce portail Oppidor, une copie d'écran de la page d'accueil de ce portail Oppidor. Pour le moment, vous avez trois services, et je dis bien pour le moment, parce qu'à mesure que de nouveaux services vont venir se greffer, on va les installer dans ce portail. Vous avez un premier service que vous avez à gauche, qui est le DMP Oppidor. Je vais vous en parler un petit peu. Vous avez un second service, Catopidor. Les deux premiers étant complètement gratuits et utilisables par l'ensemble de la communauté scientifique. J'insiste, faites-le, utilisez-le, c'est fait pour vous. Le troisième, c'est service d'attribution de DOI DataSite, qui est payant. Je vais vous expliquer, c'est quand même pas très cher. Le site lui-même, alors, hop, je vais essayer. Là, vous avez une description du site. Vous pouvez avoir un accès direct au service, si j'y arrive, voilà, avec la souris. Et puis, vous avez nos coordonnées, sachant que c'est quelque chose que nous n'avons pas construit, nous, tout seuls, mais en coordination avec BSN. Donc, je disais trois services pour le moment. Ces trois services sont DMP Oppidor, qui permet de planifier. Donc, c'est un système d'accompagnement des chercheurs dans l'élaboration d'un plan de gestion de données qui est l'élément clé d'une bonne gestion. Je n'arrête pas de vous en parler. Deuxième service, Catopidor, on en a parlé aussi ce matin, ça vous permet de repérer. Catopidor, c'est un catalogue de services français qui permettent d'identifier des services qui sont dédiés aux données de la recherche. Alors, pourquoi français ? Vous allez me dire, mais on est dans une science internationale, au moins européenne. Tout simplement parce qu'il fallait limiter, au moins dans un premier temps, le périmètre. Ensuite, on verra. Et puis, on avait une demande quand même, une demande forte des chercheurs français en disant « Et en France, qu'est-ce qu'il y a ?» Alors, évidemment, on a parlé ce matin de RE3 Data, vous pouvez trouver des éléments sur RE3 Data. Voilà. Et le troisième service, donc DataSite, qui vous permet d'identifier, un service d'attribution d'identifiants pérennes DOI sur lequel je reviendrai. Alors, le tout premier service, voilà comment ça se présente. En fait, c'est tout simple. Vous avez des éléments, vous avez sur en haut à droite des éléments, un élément descriptif de ce qu'est DMP Oppidor. Tout en haut, là, dans le petit carré bleu, vous avez un accès direct au service, des actualités sur la partie gauche, des facs sur DMP Oppidor. Comment le premier, j'arrive pas à lire, je ne l'ai pas appris par cœur, pardon. Est-il possible de disposer sur DMP Oppidor des dossiers de recherche, etc., etc. Donc vous allez pouvoir cliquer dessus. Et puis vous avez en bas à gauche une zone qui va vous permettre, via un formulaire, de vous connecter, de poser une question à l'équipe projet DMP Oppidor. Alors, donc DMP pour une optimisation du partage d'interopérabilité des données de recherche, donc un outil collaboratif d'aide à la rédaction en ligne, avec une interface utilisateur pour une création, partage et export de DMP. On va revenir un tout petit peu sur le détail. Je ne vais pas forcément vous faire la démo. Si on a un petit peu de temps, je pourrais revenir sur une démo. Et puis, éventuellement, vous pouvez utiliser à la demande, vous nous demandez, vous pourrez utiliser une interface administrateur. C'est un peu plus compliqué. Donc, avec laquelle vous pourrez rajouter des modèles et des recommandations de DMP. Voilà. Comment ça se présente? Quand vous avez cliqué sur le petit rectangle en haut à droite de l'application, vous allez avoir une interface qui vous permet de vous connecter. Nous vous recommandons. Alors, pour la première connexion, vous connectez avec l'accès individuel. Et ensuite, vous pourrez vous connecter avec les identifiants Janus que vous pouvez utiliser. Comment ça fonctionne, si vous ne savez pas, ce que je peux tout à fait comprendre, au moins pour les premiers contacts, vous avez 4 petites vidéos de présentation et normalement, tout est expliqué et c'est tout à fait utilisable. Alors, comment ça se présente ? Vous allez avoir vous connecter, vous allez avoir vos plans, vous créez un plan, et ce plan, il y a un certain nombre d'éléments descriptifs que vous allez devoir renseigner. Je vais vous montrer pour créer un nouveau plan. Vous avez la possibilité d'aller chercher. Pardon. Je pensais que c'était une question, excusez-moi. Donc voilà, vous avez la possibilité d'aller chercher un financeur ou pas. Vous avez des modèles qui sont proposés. Vous pouvez aussi utiliser un modèle je n'ai pas de financeur. Et dans ce cas-là, c'est le plan par défaut Commission européenne qui vous est proposé. Le DMP, on a dit, c'est un élément qui va vous décrire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez devoir répondre à des questions, tout simplement. Ces questions vous sont suggérées en langue anglaise, bien entendu, pour le moment. Je dis bien entendu parce que pour le moment, la seule exigence, ce sont les exigences des projets européens qui doivent être déposées en anglais, évidemment. Nous travaillons sur une version qui sortira d'ici un an et demi, où il y aura une internationalisation, où il y aura une interface en langue française. Mais ce qui n'empêche que l'anglais étant une langue de communication internationale, c'est maintenant utilisé par tout le monde. Et vous avez ici, par défaut, sur ce modèle-là, vous allez avoir à décrire... les six éléments de questions. Finalement, DMP, qu'est-ce que c'est ? C'est un traitement de texte avec des guides. C'est pas autre chose. Ça n'est pas autre chose. Et vous allez avoir des questions qui vous sont posées, des questions qui vont concerner la durée de vie et le cycle de vie du projet. Ce document, vous pouvez le partager, vous pouvez le créer pour vous-même, vous êtes chercheur, vous créez, mais un chercheur n'est jamais tout seul, il travaille au sein d'une équipe, donc vous allez pouvoir le partager, vous allez le partager avec une personne, deux personnes, avec différents niveaux de partage. Et vous pouvez mettre une personne en co-auteur. Alors attention, parce que ça a des conséquences. Hein. Si la personne le supprime, ça peut avoir des conséquences. S'il y a 3 co-auteurs, si un co-auteur fait une mauvaise manip et qu'il le supprime, il le supprime pour tout le monde. Hein. Et puis ça, c'est sans récupération possible, ou le donner en lecture, ou le donner en écriture. Et vous avez ici toutes les permissions que vous allez pouvoir le partager. À un moment donné, c'est un document que vous allez pouvoir exporter. Alors ici, j'ai sélectionné le PDF, mais vous avez d'autres formats, CSV, HTML, JSON, texte XML et DocX. Donc c'est un document que vous allez pouvoir imprimer, retravailler, etc. N'oubliez pas que ce DMP, il est de toute façon stocké sur les serveurs de l'INIST. Donc, en espèce de résumé, je dirais bien qu'il existe des modèles de plans de gestion qui sont implémentés dans l'application, qui existent. Si ces modèles ne vous conviennent pas et en accord avec votre institution, vous pouvez créer votre propre modèle. J'insiste sur le fait que c'est un accès libre et gratuit à vos DMP. Ils sont stockés chez nous, je l'ai beaucoup dit. Et puis, ce que je n'avais pas dit, mais je vais préciser maintenant, c'est l'instance française de DMP Online qui a été développée par les Britanniques. C'est un outil qui a été ouvert déjà il y a un an, en novembre 2016, et qui est évolutif, j'en ai parlé, puisque c'est un outil que nous allons faire évoluer vers, en coordination avec l'Université de Californie, et dans le cadre duquel il y aura cette internationalisation dont je parlais à l'instant. Voilà, pour DMP Opidor, une présentation générale. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Si je ne peux pas vous répondre ou si d'autres questions vous viennent, vous pouvez contacter l'équipe projet à info-opidor@iniste.fr ou sur le site opidor.fr, vous avez un formulaire de contact. L'adresse n'existe pas. Deuxième service qui est accessible depuis ce portail, c'est Catopidor. Alors, Catopidor, c'est un service, c'est un outil qui a été mis en place en coordination et à l'initiative de la BSN et en partenariat avec l'UNISTRA, l'Université de Strasbourg. C'est un service qui permet, qui permet de repérer les services dès la planification du projet de recherche. Voilà. Comment vous dire ? Si on peut considérer que DMP Opidor est le squelette, DMP, l'outil dont je viens de parler, est le squelette, CAT est l'outil qui vous permettra de vous aider à renseigner DMP. Ça permet aux producteurs et aux utilisateurs de données d'identifier des services dont ils ont besoin pour leur projet de recherche. Alors, Catopidor, c'est quoi ? Catopidor, c'est un wiki. Catopidor, c'est un wiki, donc c'est collaboratif. Ce qui est important dans ce collaboratif, c'est que c'est vous, ici, et d'autres, dans vos labos, vous connaissez un service, vous suggérez ce service, vous ouvrez un compte, c'est quand même beaucoup plus simple, vous nous suggérez ce service, et ensuite c'est modéré, c'est complété avec vous, mais nous ne sommes pas, nous ici, enfin nous à l'INIST, nous ne sommes pas les seuls à renseigner des services, mais c'est vous qui connaissez des services, ah mais je connais ça, machin, je vais le suggérer. Voilà. Donc c'est un outil, j'ai envie de dire, il faut que vous vous en empariez. Ça, c'est important. C'est important parce que c'est, comment vous dire, c'est l'outil, ce sera votre outil. Ce sera ce que vous voulez en faire, finalement. Alors, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Vous avez des types de services. Joachim avait fait des copies d'écran ce matin. Information, accompagnement. Ben voilà, il a fallu, à un moment donné, caractériser les types de services qui sont proposés. On retrouve un cycle de vie des données. Alors, ce n'est pas tout à fait le même, mais on retrouve un autre cycle de vie des données. Et puis, vous avez dans quel domaine scientifique tu avais compté, Joachim, 50 domaines pour les SHS. Alors, d'où viennent ces séparations en trois domaines scientifiques ? C'est les séparations, tout simplement, de l'ERC. Cette distinction, pardon. Donc, c'est un catalogue de services. Ça, c'est un petit résumé. Un catalogue de services dédié aux données de recherche. C'est une cartographie des services français pour accompagner la communauté scientifique. C'est un petit peu, de façon probablement plus rigoureuse qu'RE3 Data, c'est un petit peu le RE3 Data français. Mais j'insiste, c'est un média wiki, c'est un wiki sémantique. Donc c'est l'outil, c'est vous qui alimenterez cet outil. Nous, on va l'alimenter de notre côté. Mais vous connaissez des outils, vous êtes dans les labos, vous êtes en contact avec les chercheurs. Vous nous proposez et ensuite, par un système d'échange, hein, de mails, de contacts, de téléphones si nécessaire, vous pourrez, c'est des données que vous allez pouvoir vous compléter. Bien entendu, c'est intimement lié à des MPOPIDOR, c'est une aide précieuse pour trouver des réponses aux questions posées au moment de la rédaction du DMP. Et ça a ouvert, c'est tout récent aussi, ça a ouvert fin septembre. L'accès direct, c'est 4.opidor.fr. Hop, oh non, je ne vais pas y aller. Oh, je pourrais, hein. Donc, voilà. Trois types de personnes, hein. Ça permet aux producteurs, aux utilisateurs de données d'identifier les services. Ça permet au personnel d'appui à la recherche. Ça peut être utilisé par eux aussi. Ça permet aux fournisseurs de services. Donc voilà, vous connaissez un service qui n'est pas de chez vous, mais dont vous avez entendu parler. Eh bien, vous le renseignez. On le complète ensemble et puis ça complète l'outil, quoi. Ça fonctionne comme un wiki. Et pour les décideurs, c'est un panorama dynamique des services. Voilà. C'est un outil collaboratif ouvert à tous, alimenté, actualisé par les utilisateurs. J'ai l'impression de me répéter. Voilà. Donc vous avez un accès par type de service, par discipline scientifique, par le menu sur la gauche, par le moteur de recherche là-haut, tout en haut, comme n'importe quel Wikipédia, et par phase du cycle de vie. Et également une petite cartographie qui vous permet de localiser les services. Alors, si on va, par exemple, dans la formation, on va... non, c'était pas ça. Donc, si on va, alors non pas dans la formation, pardon, j'ai fait une erreur, dans l'annuaire de données, par exemple. Certains vont reconnaître Archipolis, par exemple. Vous avez un certain nombre d'autres services qui sont référencés, Archipolis, Bibis, CIRAD, etc., DataOSU, Ecoscope, voilà. Avec le domaine scientifique d'appartenance, les mots-clés descriptifs, la localisation et le stade du cycle de vie. Alors, si on va sur cet Archipolis, on a une description, on a les domaines scientifiques, les thématiques, les mots-clés, un certain nombre d'éléments descriptifs, et puis les parties du cycle de vie qui sont concernées par le service. Si on prend un autre, et ça va me permettre de faire une courte parenthèse sur la formation, par exemple, là, on va aller voir formation, et on va voir Doranum, qui est un service qui est proposé également par l'INI-CNRS. Vous avez, je crois, dans vos petites pochettes, un petit flyer qui vous présente Doranum, qui est un service de formation, d'auto-formation sur les données de recherche et qui est décrit là également. Je vous incite à aller voir Doranum. Pareil, c'est parfaitement gratuit. Alors, même chose que tout à l'heure. Si vous avez des questions sur Catopidor, si vous souhaitez renseigner, si vous avez des questions particulières sur l'usage, n'hésitez pas. Donc, de la même façon, soit via le formulaire, via le portail Opidor, soit vous pouvez contacter l'équipe projet à info@catopidor.atiniste.fr. Et puis, troisième et dernier service, donc ces deux précédents étaient et sont parfaitement gratuits. Le troisième, c'est DataSite. Donc, ça se présente toujours pareil. Maintenant, on va aller un petit peu plus vite. Ça se présente toujours pareil. On a un élément descriptif, des actualités, des facs. Alors, je pense que nombreux sont ceux d'entre vous qui connaissaient déjà DataSite. En fait, DataSite, donc un consortium international à but non lucratif, créé à Londres en 2009. Et l'INIST est membre fondateur du consortium et agence d'attribution pour la France. Un DOI, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un URL, enfin, qui permet une identification pérenne des produits de la recherche scientifique. Ça facilite la découverte, ça participe à promouvoir la science ouverte, ça on en a déjà parlé, et ça aide à rendre les données faires. On en reparle, on en a parlé tout à l'heure, on en a déjà parlé ce matin également. L'INIST est une agence d'attribution de DataSite, donc c'est une relation contractuelle entre l'INIST CNRS et le centre de données. Alors, ça a un coût, c'est un coût qui est quand même minime, enfin moi je trouve qu'il est assez minime, pour un nombre illimité de DOI, c'est 180€ hors taxes par an. Si votre organisme n'est pas un organisme qui dépend de l'ESR, l'enseignement supérieur et de la recherche, il y a un coût de DOI qui est entre de l'ordre entre 5 centimes et 30 centimes du DOI. Mais il faut en faire déjà un certain nombre. Techniquement, l'attribution de DOI, c'est composé de deux parties. Un préfixe qui est attribué par nous, agence d'attribution, et un suffixe qui est attribué par le centre de données. Je ne vais pas revenir sur le système de DOI lui-même. Je voudrais juste vous donner ici quelques chiffres. L'INIST a passé un contrat avec 75 centres de données et organismes de recherche, a attribué 24 000 DOI en 2017 et a commencé, même si on a été fondateur en 2009, a commencé à attribuer des DOI en 2013. Il y en a actuellement 43 000. Juste pour mémoire, DataSite, c'est 148 millions d'objets qui ont été sur lesquels on a attribué un DOI. Voilà. Dernier point sur la question des DOI. Il existe une API que DataSite propose qui est assez complexe, qui permet de charger des DOI en masse. C'est très bien si on est informaticien et si on a du temps. Et c'est très compliqué. Donc on est en train, nous, de travailler sur la mise à disposition de la communauté d'un service en ligne gratuit pour les opérations en masse sur les DOI. Et trois éléments, ça permettra de créer des DOI en masse, des centaines de DOI, parce que c'est quand même un petit peu fastidieux. Ça permettra la mise à jour des métadonnées. Bon, je n'ai pas dit, mais effectivement, au moment de la création du DOI, vous avez la création d'un certain nombre de métadonnées et la vérification et les mises à jour des URL. Cette API sera mise à disposition gracieusement, bien entendu, sur le portail et sera à disposition de tous ceux qui possèdent déjà un compte, évidemment, puisque la première opération, c'est la vérification d'existence du compte. Mais l'interface existe. Alors, j'ai appris, mon diaporama n'est pas tout à fait juste. J'ai mis à horizon fin 2017. En fait, j'ai appris hier après-midi qu'on aurait, c'est une application, mais ça, tout le monde ici a l'habitude, qu'on aurait un petit peu de retard. Ce sera plutôt mi-janvier. Et puis, nous étudions la possibilité de conversion depuis des standards de métadonnées vers le standard de DataSite. Voilà. Donc là, c'est pareil. Une équipe dédiée se tient à votre disposition pour vous conseiller dans l'attribution de DOI à vos données. Et si vous avez des questions, de la même façon que pour les deux précédents, vous avez la possibilité de nous contacter soit via le formulaire depuis le portail, soit directement à dataset@inist.fr. L'équipe est tout à fait réactive et je vous remercie de votre attention. Et j'attends vos questions.
Quelques questions, que ce soit sur DMP Opidor, Catopidor ou DataSite.
J'ai ramené ici quelques flyers, je continue de faire la pub. J'ai ramené ici quelques flyers.
Ça marche.
En plus, elle a des questions.
Dans vos labos respectifs pour faire la pub. Vous verrez, il y a un petit QR code qui vous emmène directement sur le site.
Oui, moi j'ai. Merci beaucoup pour cette présentation. Voilà, j'ai quelques questions qui peuvent paraître un peu naïves. Je suis désolée. C'est tout d'abord pour DataSite, je ne comprends pas très bien l'intérêt, enfin, à mon niveau, d'avoir recourir à ce service, sachant que, du peu d'expérience que j'ai, les plateformes génèrent automatiquement des DOI. Donc, quand on dépose des données, donc il me manque un élément pour mieux comprendre. Je pense, par exemple, pour Zenodo, j'ai un de mes chercheurs qui a déposé des données pour mettre en lien avec sa publication, et ben, le DOI a été généré automatiquement. Donc concrètement, c'est, ce service, c'est pourquoi ? C'est pour des DOI qui vont être reliés à une structure institutionnelle ou, enfin, j'essaie de comprendre, excusez-moi. Ça, c'était ma première question.
Alors, je vais peut-être répondre tout de suite à la première.
Oui.
Comme ça, on va essayer. J'ai peut-être pas forcément tous les éléments pour pouvoir vous répondre. Mais je pense que l'organisme dans lequel votre chercheur appartient, mm-hmm. doit être un organisme avec lequel il y a une convention. Parce que le DOI ne se crée pas tout seul. C'est ce que j'avais essayé d'expliquer ici. Tout en bas, vous avez l'attribution de DOI composée de deux parties. Le préfixe, donc là, qui est défini une bonne fois pour toutes au moment de la création, au moment de la signature du contrat, hein, tout simplement, hein, concrètement. Et puis le suffixe qui est créé par le centre de données, donc le centre de recherche, hein, l'organisme de recherche, le meilleur organisme de recherche. Et ça, c'est contractuellement créé et maintenu par l'organisme de recherche. En fait, toute l'astuce, si vous voulez, de DataCite repose là-dessus. C'est un partage contractuel, contractualisé. C'est-à-dire que nous, organismes attributeurs de préfixe. Oui. Nous créons le préfixe, mm-hmm. l'organisme, le centre de données, ce qu'on appelle le centre de données, le labo de recherche, hein, l'organisme de recherche, crée le suffixe, donc crée le DOI lui-même, et s'engage contractuellement à le maintenir. Donc, à un moment, ça, techniquement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, vous me dites, il y a création de DOI automatique.
Enfin, moi, j'ai juste vu qu'il y avait... je suis en tant qu'utilisatrice, j'ai vu simplement qu'il y avait effectivement ce DOI généré. Je ne sais pas derrière comment ça se passe. Quoi.
Il n'y a pas de DOI généré comme ça.
Voilà, donc il y a des... D'accord.
Voilà. Il y a quelqu'un à un moment donné qui va dire c'est ce numéro-là.
D'accord.
Ce numéro-là correspond à un jeu de données. Oui.
Oui. Jacques.
J'ai peut-être pas la totalité des explications.
Quand on publie chez un éditeur, c'est éditeur attribue entre guillemets automatiquement un DOI. Mais sauf que c'est un DOI de l'éditeur et c'est un DOI de la plateforme Zenodo.
Je crois que tu as la réponse. Oui. Ouais, je crois que tu as la réponse. Oui. Si c'est juste pour Zenodo, c'est ça.
Oui.
Donc ça doit être ça. Oui. Non, un DOI n'est pas...
Est-ce que ça a une conséquence à terme, enfin, sur le temps ?
Non.
Il faut quand même faire confiance à l'institution qui délivre le DOI, quoi.
Ben, c'est normalement l'institution, l'organisme de recherche qui définit le suffixe du DOI.
Par exemple, pour Zenodo,
oui.
Ce serait le CERN. On peut estimer qu'on peut avoir confiance aussi, mais on ne le sait pas tout le temps, quoi, en fait. C'est ça que je veux dire, ça dépend des entrepôts. De qui est derrière la création du DOI ? Est-ce qu'on
qui
peut être sûr ?
Qui est derrière la création du DOI ? La réponse est l'organisme de recherche, normalement. Sauf, peut-être ce cas particulier de Zenodo, où c'est l'éditeur. Probablement, oui. Probablement. Ah bah le CERN a payé les 180 euros, ça... Je pense qu'ils peuvent. Je pense qu'ils peuvent.
Oui, une petite question. Vous, en fait, il n'y a pas de coût pour vous à générer les DOI ? Ou il y en a un ?
Il y a une équipe.
Qu'est-ce que je vous réponds ? Nous sommes fonctionnaires d'État, donc en soi, il n'y a pas un coût spécifique à générer un DOI, sauf que y a une équipe qui travaille. Et effectivement, c'est 180 euros. Je sais que c'est très controversé, hein, qu'il y a des personnes qui disent mais pourquoi c'est pas complètement gratuit, c'est dans le cadre d'un service public. Je sais que ça existe, hein, j'entends ça, et j'entends bien l'argument. Mais c'est le modèle économique qui a été choisi par la direction de l'INIST, que je ne remets pas en cause, mais qui pourrait très bien dire voilà, c'est complètement gratuit pour l'ESR. Et on n'en parle plus.
Non, le coût est dérisoire. C'était le pas le sens de ma question, mais c'est parce que j'ai posé la question à un responsable de Nakala. Pourquoi Nakala délivrait des handles et pas des DOI? Il m'a dit que c'est pour des raisons de coût. Or, vu ce que vous dites là, je sais pas, il faudrait peut-être leur reposer la question, mais c'est vrai que Nakala ne donne pas de DOI.
Bon, je ne peux pas répondre pour... pour Nakala, bien entendu, et... Stéphane Pouillot n'est malheureusement plus là, donc je ne peux pas lui renvoyer la question.
Après, je pense qu'il y a aussi des questions de culture scientifique, de discipline scientifique. Peut-être que DOI, c'est plus orienté sciences dures. Dans les bibliothèques, on va plus trouver ARC ou Handle ou en SHS, par exemple. Je ne suis pas spécialiste non plus, mais je pense que... chaque DOI n'a pas forcément, je parle sous le contrôle de Joachim, sa spécificité, mais je pense qu'il y a des DOI qui sont plus en phase avec certaines disciplines que d'autres. Je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. Après, il y a l'aspect du type d'objet de recherche, si c'est une publication, si c'est un ouvrage, si c'est de la vidéo. Je pense qu'il y a toutes ces problématiques derrière les identifiants aussi.
Une habitude de recherche aussi, probablement.
Oui.
Vas-y. Oui.
Un commentaire en plus par rapport au DOI. Si vous voulez comprendre le DOI, allez se récupérer, allez regarder d'où ça vient. C'était au départ...
C'est un Handel.
Au départ, c'était un projet, notamment des grands éditeurs, quand ils sont allés en ligne, donc... L'origine est là, c'est-à-dire que pour rendre les articles, les données des articles, connectées, pour pouvoir faire des connexions entre les citations, les articles, pouvoir naviguer entre les plateformes. Donc, le DOI a toujours été, entre guillemets, entaché de cette origine commerciale. C'est un organisme non for profit qui est derrière. Donc, ils ne sont pas là pour faire des profits, mais ils sont là pour connecter les articles, les citations, les objets, tout un tas de choses.
Et établir le lien entre les éléments.
C'est comme ça que ça fonctionne. Et Handle, c'est plutôt quelque chose de générique qu'on peut attribuer comme ça, comme identifiant pérenne à tout sort d'objet, sans qu'il y ait quelque part, il me semble, un intérêt commercial derrière.
Vous avez bien. D'autres questions, Mariadi?
Oui.
Sur les plans de gestion actuellement, puisque l'obligation a été posée depuis le début d'année, est-ce que vous avez déjà des plans de gestion qui ont été proposés, montés en termes de volume, en termes de représentation des disciplines, est-ce qu'on peut déjà avoir un retour sur ça?
Alors, malheureusement non, parce que actuellement, un plan de gestion, comme c'est un document évolutif, il n'y a pas un bouton qui nous dit le plan de gestion est terminé. Un plan de gestion, vous êtes en train de le renseigner, on vous appelle au téléphone, vous... interrompez votre remplissage du plan de gestion, vous faites autre chose. Personne ne sait, et au sein de l'équipe, personne ne peut savoir aujourd'hui si un plan de gestion est achevé, en cours, en brouillon, si j'essaye pour voir comment ça fonctionne, etc. On n'a pas les informations. Non, on n'a pas en cours. On ne peut pas le savoir. Donc d'où la difficulté et d'où je comprends bien cette frustration qu'on peut avoir en disant mais on ne peut pas établir de statistiques sur les typologies des domaines, sur la, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, sur la longueur du plan de gestion, sur sur un plan de gestion. Est-ce que c'est du H2020? Est-ce que c'est du H2020 faire? Est-ce que c'est un plan de gestion qui concerne un autre financement pour lequel il n'y aurait pas de plan de gestion obligatoire, mais dans le cadre de mon projet de recherche, je pense à utiliser, etc. J'étais il n'y a pas très longtemps à Besançon, où une équipe songe à proposer le plan de gestion comme quelque chose de presque obligatoire, entre guillemets, parce que c'est une bonne pratique. Alors, voilà, ils vont le proposer. Quel modèle ils vont utiliser, ça, pour le moment, on ne sait pas. Et puis, comment, nous, on va pouvoir savoir le niveau de complétude de ces plans de gestion, au plan de gestion par plan de gestion? On n'a pas les éléments pour, actuellement. Alors, on n'a pas de... c'est difficile pour nous d'avoir... De dire, voilà, on a 50 plans de gestion et on en a, sur ces 50, on en a 45 qui concernent H2020. Pour le moment, nous n'avons pas ces éléments-là. Alors, je me permets d'insister, utilisez, saisissez-vous et saisissez les éléments sur Catopidor, c'est votre outil. Et utilisez DMP, bien entendu.
Merci. Bon, merci.